tout comme la presse dominante, la presse alternative a ses principes normés par ses habitudes qui doivent la distinguer de ses rivaux, tout en étant insérée dans l'attitude de la conformité du clan. C'est une attitude en tout point similaire à la presse dominante qui censure ce qui ne lui est pas usuel bien que les idées défendues soient opposées. Le rejet du différent, de l'autre, de l'étranger, etc. En fait, la projection de ce qui dérange en se défendant par le rempart de ses idées reçues, de ses croyances. C'est une conformation à ce qui est planifié, c'est-à-dire se faire croire de protéger le clan qui crée l'activité d'hostilité. Une protection à la menace, une protection envers ce qui est perçu comme différent, endoctriné comme dangereux. Cette culture sociale de la menace naît dans notre société peureuse et hyperactive, où chacun se sent menacé, car chacun cultive sa peur, et agit en conséquence. La conséquence de la peur, pour ne pas perdre la face, et l'hypocrisie à chaque clan, adapte le sens des mots qui lui convient, pour garder la face. Voir par exemple le sens multiple du mot culture, qui en politique n'a pas le même sens en art ou en agriculture. Une stratégie de guerre verbale, où brouiller le sens des mots mène à la confusion de l'adversaire pour lui donner tort, qui est le sens même de cette compétition médiatique. Pourquoi la presse alternative et indépendante rentre-t-elle dans ce jeu de l'hostilité? Son rôle semblerait plus a priori de proposer des contre-exemples de valeurs de bon sens pour injecter plus de possibles et de liberté pour chacun dans notre société. Mais, les clans dans leur rivalité, se donnent du sens mutuellement, grâce à cette contradiction qui est le moteur de leur publication. Le sens d'exister de la presse de contre-informer dans le style convenu à adopter du média. Sa forme sert à identifier, et le contenu ne peut pas déborder sa forme, au risque de perdre l'identité du média, où les débordements sont censurés. Cette identité est nécessaire à sa diffusion, où les adeptes doivent se reconnaître en elle. Cette identité ferme sa structure et s'assimile à un objet de consommation fini, comme n'importe quel objet du commerce. Une marque au sens de la griffe. C'est là que la forme, l'identité, prend le pas sur le sens solution. Mais l'hostilité est aussi le résultat de la peur et de l'avarice qui découle de la propriété identifiée et farouchement gardée. Dans ce contexte, l'idée de la vie semble injuste, déséquilibrée, mais elle ne l'est pas. Cruelle. Elle est neutre. Comme disait Sioran. C'est nous qui lui injectons nos terreurs, nos folies et nos contradictions. Dans notre système monétaire et économique, nos propriétés ne nous appartiennent pas. Nous les surpayons aux banques par des remboursements plus les intérêts, qui souvent durent une vie de travail. C'est ici que naît l'hostilité. Dans la peur de perdre une partie à soi, l'identification à la propriété pousse à la censure pour la sauvegarder de son anéantissement. Un préjudice psychologique permanent qui empêche d'être ouvert aux autres, aux différenciés, à l'inconnu. Propriété et privé sont deux termes en situation de pléonasme synergique. Une propriété n'est pas réservée à l'usage collectif, sinon elle serait publique. La propriété privée est une contradiction. Ce renforcement du sens de l'appartenance, qui autorise la ségrégation et la censure involontaire comme naturelle, pour préserver sa propriété de soi, qui est la projection accaparante à soi, montre le lien pathologique au clan pour sa reconnaissance sociale, et sa peur de perdre et d'être perdu, sans identité de clan. Marqué par ses attitudes, éduqué par la sédentarisation, l'illusion de posséder ne s'applique qu'à des objets fixés et identifiables en ordre, il est difficile d'agir dans le sens de sa pensée sans se trahir. Action et réflexion sont deux actions distinctes où l'une et l'autre sont en contradiction, dans ce contexte inconciliable. Cette réflexion pour comprendre pourquoi notre société occidentale règne dans la suspicion, la méfiance, la peur et l'hostilité permanente en matière de communication médiatique, et autres, et cela dans tous les camps. Les uns contre les autres jouent le même jeu. Celui du maintien du déséquilibre entre les dominants et les dominés, entre les favorisés et les défavorisés. Qui crée une machine implacable qui tient profit contre soi, et qui aliène sa vie à la soumission à un système imposé. Combien de personnes peuvent prétendre vivre leur vie espérée, au lieu de se soumettre à la justice d'un système qui privilégie le déséquilibre entre les humains, et la frustration de soi, qui se résout partiellement et constamment dans le divertissement inepte pour s'évader. Même ceux qui se prétendent alternatifs à l'hégémonie dominante ou le jeu de l'hostilité de peur de perdre son identité qui est dans le processus d'être perdu. Le conformisme clanique accomplit son travail de fausse distinction idéologique de l'illusion d'être différent par les idées éduquées, afin que chacun perde définitivement son individualité, pour une obéissance à l'autorité du clan justifiée dans la protection illusoire de l'individu. Pour la police aujourd'hui, individu est synonyme à l'euphémisme de suspect. Mais la sécurité se transforme en sûreté. C'est-à-dire en une répression de l'individualité pour supprimer l'originalité pour l'égalité ordonnée. Et cette machine autoritaire se globalise insidieusement. Elle est traître dans sa tradition, car elle gouverne tous les individus à leur insu, et donc chacun est l'ouvrier. Le riche comme le pauvre. Ce système extra-humain dont il n'existe aucun complot planétaire, devient à force de la servir incontrôlable, dans le sens où elle nous fait agir contre notre volonté. L'administration globalisée des humains ne sert qu'à déshumaniser l'humanité. Créer un système contre soi, pour justifier sa peine d'être né, était un dogme de l'Église pour mériter le paradis, est repris aujourd'hui par l'industrie du divertissement d'un paradis de consommation mérité en paiement de sa peine, mais pas de l'effort pour soi et les autres. Ce système nous punit, et à la fois nous rassure envers une hostilité illusoire de la nature des choses. Être en sécurité sur s'isoler des autres et du dehors, se replier sur soi dans la répétition des habitudes qui créent sa réalité particulière. Une auto-frustration volontaire. Une attitude perverse du système qui maintient les clans dans la peur où chacun perd sa confiance en soi, et dans l'existence même, où la copie transmission est plus favorisée que l'originalité créatrice, qui est censée alimenter notre générosité et notre ouverture d'esprit, mais le groupe agit contre la liberté individuelle d'être original. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? L'analyse, la réflexion révélée. Ou la figure de Steve a publié.